Bonjour, en compagnie de Mathieu Ordonneau, Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver depuis les studios de Radio Fidélité et nous allons consacrer cette heure à des œuvres concertantes, si je puis dire, de ce grand compositeur tchèque qu'est Antonín Dvořák. Alors, pour schématiser très vite l'histoire de la musique tchèque, je dirais que le père de la musique tchèque, c'est bien sûr Bedřich Smetana. Vous connaissez certainement la fameuse Moldau, ce poème symphonique qui parle du fleuve qui traverse Prague, qu'on appelle aujourd'hui la Vltava, pour essayer de le prononcer à la tchèque. On a dit, si Smetana est le père de la musique tchèque, c'est quand même Antonín Dvořák qui l'a fait reconnaître dans le monde entier. Et c'est vrai que ce compositeur est peut-être plus célèbre aujourd'hui que Bedřich Smetana, même s'il est encore une fois peut-être moins important que cet autre compositeur. Ce qui est certain, c'est que Dvořák et Smetana se sont reconnus, ont même été, je dirais, suffisamment proches l'un de l'autre pour se battre, évidemment, pour cette musique tchèque. Et par la suite, on le sait aussi, notre Antonín Dvořák partira pour diriger la première fois le fameux conservatoire de New York qui vient d'être créé. On sera en 1895 et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le nouveau monde s'ouvrira pour Antonín Dvořák et il deviendra certainement le tchèque le plus célèbre de toute l'histoire de la musique et même, je dirais peut-être, le tchèque le plus célèbre à l'époque. Et il va rester quelque temps aux États-Unis. Vous le savez, il va composer un fameux quatuor, dit le quatuor américain, mais il composera aussi et surtout la fameuse 9e symphonie dite du Nouveau Monde. Ça, c'est 20 ans plus tard que l'œuvre que nous allons maintenant entendre, parce que c'est une œuvre de jeunesse de Dvořák. C'est une œuvre qui a été composée, on va dire, à l'été 1876 et qui va être donnée pour la première fois à Prague, évidemment, le 24 mars 1878. Il faut dire que Dvořák est déjà un musicien reconnu, qui a écrit un certain nombre d'œuvres. Il a commencé une ou deux symphonies. Il est véritablement devenu quelqu'un d'assez incontournable à Prague, où il dirige aussi des orchestres. Et on va le pousser à un certain Sladovski, qui va lui dire « Écoute, il faut absolument, Antonín, que tu écrives un concerto pour piano. » Pourquoi ? Parce que dans ces années 1870-1875, l'instrument roi, c'est bien sûr le piano, et le concerto pour piano et orchestre constitue, j'allais le dire, un passage incontournable pour un compositeur. Il y a eu Tchaïkovski, enfin, il y a bien sûr, avant, il y a eu Beethoven, Mozart, il y a eu Chopin, il y a eu tous les grands romantiques, hein. On peut dire que Antonín Dvořák est un post-romantique, mais on lui dit, voilà, si tu veux être reconnu dans le monde de la musique contemporaine, il faut que tu écrives un concerto pour piano et orchestre. Et c'est donc comme ça que notre Antonín Dvořák va commencer à écrire ce concerto qui, il faut bien le dire, n'est peut-être pas le meilleur de Dvořák, n'est peut-être pas non plus l'œuvre la plus célèbre qu'il ait composée, mais c'est quand même quelque chose de très important. Alors je suis heureux aujourd'hui de vous faire entendre ce concerto qui est très peu joué, il faut le dire. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il est difficile techniquement, ce que je ne crois pas. Est-ce que parce qu'il est peut-être moins brillant que les autres concertos de Brahms, de Rachmaninov, de Tchaïkovski et de tous les autres. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui est pourtant, je trouve, très intéressante. Alors, on va écouter, bien sûr, les trois mouvements qui composent ce concerto. Pour commencer, toujours un premier mouvement, un allegro agitato. Ensuite, on va en voir un mouvement plus lent, c'est classique, un andante. Et on terminera par un allegro plein de feu et plein de flammes. C'est comme ça qu'on a divisé en quelque sorte ce fameux concerto. Alors concerto qui sera quand même reconnu par la suite parce que on dira, même Brahms dira que c'est une œuvre tout à fait intéressante. Mais que voulez-vous, elle n'a pas la qualité, la solidité des autres très grands concertos de l'époque. Alors je vous propose donc de découvrir ce très beau concerto pour piano et orchestre, qui est l'unique, hein, concerto pour piano et orchestre d'Antonín Dvořák, qui porte l'opus 33 et qui va nous permettre de retrouver un jeune soliste qui s'appelle Rudolf Firknuski, tandis que l'orchestre de Saint-Louis, qui est une très grande ville aux États-Unis, est placé sous la direction de Walter Suskind. Donc tout de suite, l'allegro agitato du concerto pour piano et orchestre d'Antonín Dvořák. Thank you. C'est Rudolf Firknuski qui, au piano, interprétait la partie du soliste, tandis que Walter Suskind était à la tête de l'orchestre Saint-Louis, l'orchestre symphonique de la ville de Saint-Louis. Alors, je vous l'ai dit, c'est une forme très conventionnelle, très classique que nous propose le jeune Dvorak. On va d'abord, après avoir entendu l'Allegro, découvrir un mouvement plus lent, ce qu'on appelle un andante sostenuto, c'est-à-dire un andante qui est tenu, qui est calme et qui montre là encore le côté un peu post-romantique de cette musique, hein, puisque je vous rappelle que c'est une œuvre qui a été créée en 1878 dans cette très belle ville de Prague, qui est une ville absolument fantastique du point de vue de la musique, hein. Il y a 3 scènes d'opéra aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de salles de concert, il y en a une qui est dédiée, on va dire, à Smetana, c'est l'orchestre et la maison municipale, et puis il y a le Rodolfinum, où c'est l'orchestre et je dirais le philharmonique tchèque, où on joue évidemment du Dvorak, et la grande salle de concert du Rodolfinum s'appelle tout simplement la salle Dvorak, puisque je vous l'ai dit, c'est certainement ce compositeur tchèque qui va devenir le plus célèbre tout au long du 19e siècle et même encore au 20e siècle. Donc on retrouve nos musiciens, Walter Suskind à la tête de l'orchestre de Saint-Louis, Rodolf Firknuski au piano, pour entendre maintenant le deuxième mouvement, l'Andante Sostenuto, du concerto pour piano et orchestre d'Antonín Dvořák. Après le deuxième mouvement, eh bien, nous allons entendre évidemment le troisième qui est beaucoup plus rapide. Le final, c'est un allegro con fuoco, donc avec du feu, de la flamme. Et Dvorak veut montrer qu'il est capable d'écrire à la fois de la musique douce, de la musique romantique, mais également une musique un peu forte. On est quelques temps avant les fameuses danses slaves qui vont peut-être rendre Dvorak un compositeur célèbre. Alors, on peut dire Dvorak, si on n'a pas l'habitude, on peut dire Antoine Dvorak, mais les Tchèques disent Antonin Dvorak. Et de ce compositeur, eh bien maintenant, c'est le troisième et dernier mouvement de ce concerto, donc un mouvement rapide, très brillant, où on est un peu dans le style du concerto romantique, c'est-à-dire d'une opposition plus que d'un dialogue entre le piano et l'orchestre. Je rappelle que tout au long du XVIIIe siècle, on est véritablement dans le concerto, c'est-à-dire on se concerte, on discute entre le soliste et l'orchestre, on se passe le thème et puis on le reprend. Tandis qu'à partir du XIXe siècle, dans la grande période romantique, à partir, on va dire, des années 1830, on est plus dans une opposition de l'artiste qui se sent seul, autrement dit du compositeur qui est au piano, qui est seul contre la foule, qui est un peu représenté par l'orchestre. Et il faut bien comprendre que dans cette vision romantique du 19e siècle, le piano est plutôt, entre guillemets, j'y mets beaucoup de guillemets, contre l'orchestre. Mais l'essentiel, évidemment, c'est qu'il y ait quand même ce dialogue. Donc tout de suite, on va terminer par cet Allegro con fuoco de notre concerto pour piano et orchestre d'Antonin Dvorak, avec, je vous le rappelle, Walter Suskind à la tête de l'orchestre de Saint-Louis et Rodolphe Firknouski au piano.
Thank you.
puisque nous avons encore un peu de temps sur Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau, après avoir entendu ce très brillant concerto pour piano et orchestre d'Antonin Dvorak avec, je vous le rappelle, Rudolf Janowski au piano, Walter Suskind à la tête de l'orchestre symphonique de la ville de Saint-Louis aux États-Unis. Eh bien, nous allons maintenant retrouver l'autre côté de Dvorak, cette très belle romance, cette musique un peu douce comme on les aimait au XIXe siècle, cette très belle romance pour violon et orchestre, qui est là encore une œuvre tout à fait de jeunesse de notre Dvorak, qui va devenir encore célèbre beaucoup de temps après, hein, toutes ses œuvres. Mais on y voit là le côté encore très beau de ce violon qui a quand même une âme slave, il faut bien le dire. Hein, les Tchèques sont quand même des Slaves avant tout. Et on a cette belle proportion à la discussion. Là encore, on est plus, je dirais quand même, dans un dialogue un peu apaisé entre le violon et l'orchestre. Et c'est ce que nous propose cette très belle romance qui est interprétée ici par Ruggiero Ricci au violon. On est toujours avec l'orchestre de Saint-Louis et on est toujours avec Walter Suskind pour découvrir ensemble cette très belle romance pour violon et orchestre, opus 11 d'Antonin Dvorak. Avant de nous séparer depuis les studios de Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau, je vous rappelle que nous venons d'entendre deux œuvres concertantes d'Antonin Dvorak. D'abord le concerto pour piano et orchestre, et là on vient de terminer cette très belle romance pour violon et orchestre, ce côté un peu nostalgique finalement, très sensible, très proche encore une fois de cette âme des Slaves qui rit et qui pleure quasiment en même temps. Et je rappelle que pour interpréter cette romance d'Antonin Dvorak, on avait au violon Ruggero Ricci et on avait Walter Suskind et l'Orchestre Symphonique de Saint-Louis. Ainsi s'achève cette émission qui était consacrée à deux œuvres du jeune Antonin Dvorak avant qu'il devienne le célébrissime tchèque après son passage au Nouveau Monde.